Et c'est le journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. La nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Les mots forts d'Emmanuel Macron a papété à l'instant déclaration à propos des essais nucléaires réalisés là-bas durant 30 ans. Une blessure toujours vive, le président promet la transparence. Une bataille moyenâgeuse dans laquelle ils ont cru mourir. Voilà comment des policiers ont raconté hier au Congrès américain l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump il y a plus de 6 mois. À la une également, certains restaurants testent déjà le pass sanitaire avant sa mise en place début août. Exemple à suivre à Metz. Panzani change de crèmerie. Le leader des pâtes en France passe sous pavillon britannique vendu à un fonds d'investissement. Et puis la fondation Luma ouvre ses portes à Arles, une ville qui se place un peu plus sur la carte mondiale de la culture.
Et l'invitée de la matinale à 7h50, celle qui n'a rien lâché parce qu'elle voulait absolument gagner, la judokate Clarisse Agbenienouf, magnifique championne qui a fait rêver toute la France hier en décrochant une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo.
France Inter.
C'était le 6 janvier dernier, l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump à Washington.
On va commencer, Karine, avec Emmanuel Macron qui se savait très attendu sur ce sujet en Polynésie au terme de 4 jours de visite dans l'archipel français du Pacifique. Le président de la République prononce depuis près d'une heure maintenant un discours et il a évoqué le sujet sans doute le plus sensible sur place. Les essais nucléaires menés pendant 30 ans en Polynésie par l'armée française. Emmanuel Macron qui certes ne s'excuse pas, mais emploie des mots plutôt forts.
Aussi vrai que je vous dis que je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons dotés de l'arme nucléaire dans le concert des nations face à des puissances dangereuses. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais. Et en particulier les essais nucléaires entre 66 et 74, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres. Non. Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence. Pour faire entendre justement toute la vérité. Pour qu'elle soit partagée. Pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui. J'assume et je veux la vérité. Et la transparence avec vous.
Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, a papété, discours en clôture en ce moment de son déplacement de 4 jours en Polynésie. Et chose inédite, lors de son retour vers Paris, Emmanuel Macron présidera le dernier Conseil des ministres avant les vacances en visioconférence depuis l'avion présidentiel à 13h, heure de Paris. C'était donc le 6 janvier dernier, l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump à Washington, galvanisé par le discours d'un président sortant incapable de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Des milliers de militants devenus émeutiers s'attaquent au siège du Congrès américain. Bilan, 5 morts, 4 émeutiers et 1 policier. Ce sont eux, les policiers présents sur place ce jour-là, qui ont hier été entendus en premier par la commission d'enquête lancée par les élus démocrates. Des témoignages intenses, révélateurs de la violence de cette journée. Loïc Loury.
Ce jour-là, dit l'officier Aquilino Gonel, j'ai cru mourir. Très ému, cet ex-soldat a évoqué ce qui ressemblait, assure-t-il, à une bataille moyenâgeuse sur la colline du Capitole. Pour la première fois, j'ai eu plus peur en travaillant au Capitole que lors de mon déploiement en Irak. Rien de mon expérience dans l'armée ne m'avait préparé à ce à quoi nous avons fait face le 6 janvier. La même peur de mourir pour l'un de ses collègues dont la caméra enregistrait ces images, Michael Fanon, attrapé, dit-il, battu et visé par un pistolet à impulsion électrique au point de faire un bref arrêt cardiaque. J'ai entendu quelqu'un crier « J'en tiens !» Ils ont attrapé les munitions que j'avais sur moi et quelqu'un chantait dans la foule « Prenez son arme et tuez-le avec !» Une foule armée particulièrement agressive, raciste et aux couleurs souvent de Donald Trump comme évoqué ici par un autre policier, Daniel Hodges. Il y avait cet homme qui disait disait qu'il était temps de choisir notre camp et derrière lui, quelqu'un d'autre portait un t-shirt Dieu, les armes et Trump et tenait un drapeau Donald Trump. De l'ex-président, il n'a toutefois été question qu'en filigrane, mais cela devrait vite changer dans cette commission contrôlée par les démocrates. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et depuis les événements du Capitole, plus de 500 personnes ont été inculpées par la justice américaine. Les États-Unis où Joe Biden serre la vis face au Covid et à la propagation du variant Delta. Le masque redevient obligatoire dans certains espaces publics, y compris pour les personnes vaccinées. La vaccination que le président américain envisage de rendre obligatoire pour les quelques 2 millions d'employés de l'État fédéral. De nouvelles annonces doivent être faites demain. La vaccination en France, elle est désormais complète pour un peu plus de la moitié de la population française. Et 60% des Français ont reçu au moins une dose. 3 millions de nouveaux rendez-vous vont être ouverts dans les 10 jours, a indiqué Olivier Véran hier. De quoi faire face à la demande alors que le pass sanitaire va être élargi dans une dizaine de jours. Le temps que le Conseil constitutionnel rende son avis, ce sera le 5 août. Un pass sanitaire qui sera exigé dans les bars et les restaurants. Et certains prennent les devants en ce moment pour tester le dispositif, comme ici à Metz, au restaurant La Popote. Antoine Geoffin.
Marine Caillard sort sa tablette. La gérante ouvre l'application de vérification du pass sanitaire devant Michel, un client.
Je vais vous scanner.
Scanne-nous, vas-y. Moi, il faut que je trouve le tous anti-Covid. Il est là. Ah, voilà, il est là.
C'est bien parce que ça nous entraîne, nous,
ouvrir
et aussi les clients.
Mon carnet de certificat. Voilà.
C'est bon, vous êtes valide.
C'est facile, hein, c'est cool.
Ça prend beaucoup de temps?
Non.
À peine une vingtaine de secondes, le temps d'ouvrir l'application et de scanner le QR code, les autres clients confirment.
Ultra rapide.
Ça fait pas mal.
J'ai vite fait de sortir le téléphone pour le papier et puis c'est nickel.
Là, j'ai sorti à papier. Comme il passait pas, j'ai été prendre mon téléphone portable et c'est passé. Voilà.
Et la brioche perdue au Mirabel, on l'a retrouvée. Voilà. Bon appétit.
Tout le monde peut manger en terrasse ou en salle ce midi avec ou sans passe. C'est juste une répétition générale, rappelle Marine Caillard.
C'est pour voir si nos clients sont déjà réactifs. Enfin, voilà, s'ils comprennent un peu le principe aussi, même nous, pour nous mettre un petit peu dans le bain. C'est un peu la course parce que des fois, les gens rentrent. Il faut leur courir après. Excusez-moi, j'ai le flash code. Enfin, ou en terrasse, ils s'installent et on n'a pas eu le temps de leur dire bonjour ni rien. Enfin, des fois, c'est un peu compliqué.
La gérante a encore une grosse semaine, au moins, pour s'organiser. D'ici là, elle mettra sûrement un panneau. Merci d'attendre ici, à l'entrée de la terrasse.
Le reportage d'Antoine Geoffin, France Bleu, Lorraine Nord. Et pendant que les restos étaient fermés en 2020, les Français ont fait à manger à la maison pendant les confinements et parmi les aliments plébiscités, les pâtes. Et malgré une année de vente record, le numéro 1 des ventes de pâtes en France, Panzani, change de main. La marque va être cédée par le groupe espagnol Ebro à un fonds d'investissement britannique pour 550 millions d'euros. Elia Bergel.
La marque Panzani naît officiellement en 1950, quand Jean Panzani, immigré italien naturalisé, a l'idée révolutionnaire de vendre des pâtes dans un emballage transparent de cellophane. Le succès est immédiat et Panzani devient numéro 1 en France dans les années 60. L'entreprise reste française jusqu'en 2005, puis est cédée à Ebro, géant espagnol de l'agroalimentaire. En 2020, les ventes sont historiquement bonnes sous l'effet des achats de stocks de pâtes pendant les différents confinements. Mais les perspectives pour 2021 s'annoncent plus compliquées avec la hausse des prix du blé et du riz. Cédée à un fonds d'investissement britannique, la marque Panzani faisait saliver grand nombre d'acteurs sur le marché, dont l'autre géant des pâtes sèches, le français Lustucru, qui ne digère pas d'avoir raté l'acquisition. Le nouveau propriétaire promet que ce rachat n'aura pas de conséquences sur les 750 salariés du groupe français et que le siège social de Panzani restera à Lyon.
Élie Abergel du service économique de France Inter. Un réveil en or ce matin grâce à la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron remportent le titre en aviron, catégorie 2 de couple. À suivre aujourd'hui, Axel Clergé chez les moins de 90 kilos en judo. Il est qualifié pour les huitièmes de finale en cyclisme. C'est le jour du chrono avec Rémi Cavagna comme chance de médaille française. Il s'appelle Théodorin Obiang. C'est le fils du président de Guinée équatoriale. Il est en poste depuis plus de 40 ans. Et l'an dernier, la cour d'appel de Paris l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et a surtout saisi tous ses biens pour un montant total de 150 millions d'euros. Des biens mal acquis aux yeux de la justice. Cet après-midi, la cour de cassation va rendre un avis définitif et si elle confirme la condamnation, tous les biens en question seront vendus ou restitués aux habitants de Guinée équatoriale sous forme de programmes de coopération et de développement. Ce serait une première. Ce nouveau dispositif de restitution des biens mal acquis a été voté au Sénat la semaine dernière. Il va maintenant s'étendre à beaucoup d'autres affaires. Jean-Philippe Degnaud.
La Tunisie, le Gabon, la Syrie, l'Ouzbékistan, le Yémen, cela fait maintenant 15 ans que la justice française enquête sur les patrimoines de dirigeants étrangers investis dans le pays, comme les 90 millions d'euros de biens de Rifat el-Assad. L'oncle du dirigeant syrien attend une décision de la cour d'appel sur la confiscation de ce patrimoine, qui représente une goutte d'eau par rapport aux quelques 500 propriétés qu'il possède en Espagne et qui lui valent une autre enquête à Madrid. Dans la corbeille des restitutions des biens mal acquis en France, on trouve également les 7 villas niçoises et la trentaine de propriétés parisiennes d'Omar Bongo. Une enquête a été ouverte il y a 11 ans, mais elle est rendue difficile depuis la mort du maître du Gabon, avec la présence de quelques 52 héritiers directs. Parmi les autres enquêtes, la plus récente a été ouverte par le parquet national financier le mois dernier contre le gouverneur de la banque centrale libanaise Riyad Salamé, avec des soupçons portant sur un patrimoine immobilier de plus de 2 milliards de dollars bâti en Europe à partir de la fuite de capitaux libanais.
Jean-Philippe Degnaud. Enfin, direction Arles. Aujourd'hui encore un peu plus, ville de culture. Après 7 ans de travaux, la fondation Luma ouvre enfin ses portes cet été et accueillera de la photo, du cinéma comme du spectacle vivant et même des ateliers de recherche sur le design et l'environnement. Isabelle Pasquier.
De loin, on ne voit qu'elle, cette tour en acier déstructurée de 56 mètres de haut. Loin de se greffer sur le tissu de la ville, cette cathédrale éblouissante de Franck Guéry domine Arles. Son coût, 190 millions d'euros. C'est le rêve pharaonique de Maya Hoffman, mécène milliardaire. Ce centre culturel se veut expérimental, avec de gigantesques espaces d'exposition dans la tour et dans les anciens ateliers de la SNCF. Moustapha Boyer est le directeur de la Fondation.
La Fondation, son intention et son objet, c'est de trouver le point où se croisent les questions d'art, de création, avec les questions de nature et d'environnement. La ligne artistique, s'il devait en avoir une, c'est l'expérimentation. En créant un lieu où à la fois des scientifiques, des artistes, des penseurs, des acteurs de la société civile peuvent se retrouver autour de sujets communs et œuvrer et travailler ensemble.
Dans ce nouveau temple de l'art, les œuvres de la collection de Maya Hoffman, des productions maison comme les délires futuristes de Pierre Huyg et les archives photos d'Annie Leibovitz. Et parmi les matériaux du futur, trouvés à la Fondation, un substitut du plastique à base de tiges de tournesol. Avec la Fondation Luma, Arles, ville romaine et ouvrière, cela joue de plus en plus sélecte et contemporaine.
Isabelle Pasquier qui le disait, c'est Franck Guéry qui a conçu cette Fondation Luma. Franck Guéry qui n'est autre que l'architecte du célébrissime musée Guggenheim de Bilbao en Espagne, rien que ça.
Merci Kevin Dufraîche, bonne journée.
Bonne journée à vous.
À suivre l'édito éco.